Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, à la fois sur la bande FM 94.9 bien sûr et sur graphite.net. Alors je dis tous les samedis, alors sauf samedi dernier, j'ai eu un petit problème de logiciel qui fait que je n'ai pas pu prendre la main. On était je sais pas ce qui s'est passé samedi dernier, j'en suis désolé. Donc l'actualité que j'avais prévu de vous évoquer la semaine dernière, je vais l'évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui 7 mai au niveau de l'éphéméride. Eh bien, le 7 mai 1864, c'est le plus ancien clipper. Un clipper, c'est un bateau à voile à trois mâts ou plus qui est encore existant aujourd'hui. Il s'appelle le City of Adelaide. Il est mis à l'eau en 1864. Il est encore toujours d'actualité aujourd'hui. C'était en Angleterre. Et c'était l'idée un petit peu de faire un transport de passagers et de fret entre la Grande-Bretagne et l'Australie. Mon Dieu, ça faisait quand même du chemin. Et c'était en 1864. 1895, toujours un 7 mai, à Saint-Pétersbourg, devant la Société russe de physique et de chimie, le scientifique russe Alexander Popov fait la démonstration de son invention. C'est le détecteur de foudre de Popov qui est le premier récepteur radiophonique. 1895, merci Popov. 1952, pardon, c'est le concept du circuit intégré qui est bien sûr la base de l'informatique moderne, qui est publié par Geoffrey Drummer en 1952, le circuit intégré. Voilà, c'était un 7 mai. Naissance d'Émile Raspail, le 7 mai 1831, industriel, homme politique également. Il est ingénieur des arts et manufactures. Émile Raspail crée la société Raspail en 1858 pour fabriquer et commercialiser les médicaments à base de camphre qui avaient été mis au point par son père. Alors on connaît plus son père qui a donné, alors à Paris il y a le boulevard Raspail, il y a une station de métro Raspail, donc c'est plutôt le père que l'on connaît. Là le fils Émile Raspail est donc né le 7 mai 1831. Et dans les années 1870, Émile Raspail, donc le fils, fait construire sa demeure à Arcueil, puis une usine, et puis une autre usine, et ainsi de suite. Ces bâtiments, ils existent toujours. Et du coup, il a quand même pas mal développé cette industrie, Émile Raspail. Le décès, le 7 mai 1998, d'Alan Cormack, physicien sud-africain. Il obtient le prix Nobel de médecine en 1979 pour sa contribution à l'invention de ce qu'on appelle la tomodensitométrie. Alors ça, c'est un nom un peu compliqué, mais en fait qu'on connaît beaucoup plus sous le nom de scanner. Donc c'est de l'imagerie médicale, et donc il avait reçu ce prix Nobel de médecine en 1979. Alan Cormack, décédé le 7 mai 1998. Vous écoutez donc Biotine tous les samedis pour l'actualité scientifique. Alors je voulais revenir sur deux actualités qui sont maintenant un petit peu plus anciennes, mais en tout cas on va l'évoquer aujourd'hui. Je voulais évoquer d'abord le décès, c'était le 13 avril, de Maurice Lévy, créateur et premier président de la Cité des sciences et de l'industrie. Maurice Lévy est décédé à l'âge de 99 ans. Il était physicien, maître de recherche au CNRS, professeur de physique théorique, notamment à l'École normale supérieure. Il dirigea le Centre national d'études spatiales, le CNES, dans les années 70, où il fut le maître d'œuvre du programme Ariane Espace. Et en 1977, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, le charge d'une mission d'études de faisabilité d'un musée scientifique sur les anciens sites des abattoirs de la Villette. Donc on est quand même à la fin des années 70. Le bâtiment, il est gigantesque, et le projet qui est lancé, eh bien, il y a un peu l'idée que ce soit un projet un peu ambitieux. Et en 1979, Maurice Lévy remet son rapport dans lequel il définit les bases structurelles et fonctionnelles du projet, mais surtout sa philosophie. À la fin des années 70, on commence à parler de culture scientifique. Et la vocation de ce futur centre de sciences, de ce futur musée scientifique, il se résume en quelques éléments clés. Présenter l'aventure scientifique et l'acquisition progressive de la connaissance par l'homme. Développer aussi l'esprit critique, avec l'idée d'avoir à la fois de la rigueur et à la fois du recul vis-à-vis de l'activité humaine en société, mieux comprendre également le présent pour mieux envisager le futur, développer la créativité et l'innovation dans un environnement compétitif entre pays, et puis contribuer à la promotion de l'industrie nationale. C'est bien que on crée ce concept de cité des sciences et de l'industrie. On oublie souvent le terme d'industrie qui fait partie du nom de ce bâtiment, car à la fin des années 70, on parle vraiment de ce qu'on appelle, on appelle un peu moins maintenant, mais on appelait à l'époque la CSTI, c'est-à-dire la culture scientifique, technique et industrielle. On mettait vraiment tous les échelons, on va dire, de la recherche fondamentale jusqu'au développement expérimental et jusqu'à l'innovation technologique. En 1983, l'autre président, François Mitterrand, confirme ce projet et va confier donc à Maurice Lévy sa réalisation. Et donc, ce rapport Lévy va être le fil conducteur, à la fois pour l'architecte du bâtiment qui s'appelle Adrien Fin-Silbert, pardon, et également pour les équipes qui sont mobilisées, ce qui va devenir donc la Cité des sciences et de l'industrie. Il est nommé président de cette cité en 1985 et Maurice Lévy choisit avec ses collaborateurs de faire coïncider la date d'ouverture de la Cité des sciences et de l'industrie avec celle du passage de la comète de Halley à l'époque, dans les années 80. C'est vrai que la comète de Halley était aussi de l'actualité scientifique. Ça se passait en 1986 précisément. Et 12 000 personnes découvrent le bâtiment monumental et ce musée qui ne se veut pas être comme les autres. C'était un petit peu le slogan de l'époque. En 1987, eh bien, le pari est donc gagné. Maurice Lévy prend sa retraite. Le temps de voir affluer des visiteurs passionnés et curieux de cette espèce de vaisseau de la culture scientifique pour tous qu'il avait imaginé et qu'il avait donc fondé. Et où il laisse bien sûr sa signature définitive. Alors, un élément de ce rapport de 1979 qui avait été rédigé par Maurice Lévy. La science, c'est-à-dire la recherche de la connaissance, la réalisation du désir éternel de savoir et de comprendre, est sans doute l'un des destins les plus spécifiques, les plus nobles et les plus excitants de l'aventure humaine. Faire comprendre cet accomplissement extraordinaire dont l'essentiel a été obtenu en moins de 2 siècles est une tâche aussi importante que celle qui consiste à présenter au public les œuvres les plus significatives de la création artistique. Cette autre poursuite fascinante du génie de l'homme. Ça fait partie du rapport Lévy. Et donc, du coup, par la suite, il y a eu vraiment le développement de tous ces musées scientifiques, de tous ces centres de culture scientifique. Et il y avait, voilà, dans les années 90 et années 2000, beaucoup de structures qui composaient dans leur nom ce fameux sigle de CSTI, culture scientifique, technique et industrielle. Alors, on voit moins apparaître ce nom, même si le concept est toujours bien évidemment d'actualité. Et donc, si vous avez la possibilité de visiter la Cité des sciences et de l'industrie, n'hésitez pas. Mais donc voilà, ça date des années 80 et le concept un petit peu date de la fin des années 70. Nous sommes dans ce studio de graphite au sein d'une université, l'Université de technologie de Compiègne, qui avait été également pionnière dans ce développement de cette culture scientifique pour le grand public. Donc c'est le décès de Maurice Lévy. Je voulais à tout prix, quand même, dans le cadre de cette émission qui se veut une émission de culture scientifique, je me devais bien sûr d'évoquer la mémoire de Maurice Lévy, qui est donc décédé il y a quelques jours, mi-avril, à l'âge de 99 ans. Voilà ce que je n'avais pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière. Il y avait une autre information que je voulais évoquer. Alors, du coup, c'est un petit peu moins, on va dire, dans l'actualité chaude de l'époque, mais en tout cas, c'est bien sûr le fait que Elon Musk, qu'on va considérer comme l'homme le plus riche du monde, devient donc propriétaire du réseau social Twitter. Le conseil d'administration a finalement accepté sa dernière et meilleure offre, dit-on, qui revient à un total d'environ 44 milliards de dollars. Alors Elon Musk se pose en défenseur de la liberté d'expression. Il a indiqué que son but n'était pas de gagner de l'argent. Il compte transformer Twitter en une entreprise privée et va racheter les actions au prix de 54 dollars à peu près, ce qui lui laissera le champ libre pour imposer sa propre vision au réseau social et pour, je cite, libérer son énorme potentiel. Alors Elon Musk, patron de Tesla, entre autres, souhaite, je cite, « rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes libres pour augmenter la confiance, en débarrassant la plateforme de ces robots spammers et en authentifiant tous les humains ». Ok, alors toutefois, Elon Musk a par le passé été très critique envers la politique de Twitter en matière de liberté d'expression et avait notamment indiqué que, je cite, « Twitter devrait être très prudent avec les bannissements permanents et qu'il préférait une suspension temporaire ». Alors, L'exemple peut-être le plus emblématique, c'est l'exclusion du compte de Twitter de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis. Alors, est-ce que ça signifie qu'il compte revenir sur l'exclusion justement de Trump ? Le principal concerné, Donald Trump, a déclaré à Fox News qu'il préfère dans tous les cas rester sur sa propre plateforme qu'il avait créée, qui s'appelle Truth. Difficile aussi de savoir quelle sera la politique d'Elon Musk en matière de désinformation, en matière de propos haineux également. Elon Musk qui... cette partie de propos haineux, c'est un point qui inquiète tout particulièrement les groupes de défense des droits humains. Il faudra attendre que l'achat soit finalisé, donc d'ici quelques semaines ou moins, ça devrait se faire assez rapidement, pour voir comment cela se traduit concrètement. Mais donc du coup, c'est vrai que ça a pas mal fait parler, et c'est normal que Elon Musk s'offre tout simplement Twitter pour 44 millions de dollars. C'est voilà, je sais pas. Il y a des moments où moi personnellement, je ne sais même pas ce que ça représente, 44 millions de dollars. Je n'arrive pas à visualiser concrètement ce que c'est. Je ne sais pas. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. C'est de l'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. La rediffusion le mardi matin à 10h. C'est aussi un peu de musique parce que ça nous fait du bien.
Lazare populaire, Gégé. Lazare loot la moi, Déo, Cochacha, l'univers. Tu fais sauter, Gégé, lécher la con pour caca, pendant ce bateau dans la mer. Tu fais sauter, Gégé, lécher la con pour caca, pendant ce bateau. Kamikaze au sol, papillon d'un fanal, l'amour m'est mort mon vie. Kamikaze au sol, papillon d'un fanal, l'amour m'est mort mon vie.
Full beauté.
Sobat Corps, c'était Anoharo sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, la rediffusion le mardi matin à 10h. Il y a deux actualités qui se télescopent un peu, qui concernent les microplastiques. Alors deux actualités, deux articles scientifiques qui parlent du même sujet et qui, quelque part, ne sont pas nécessairement rassurants. Les microplastiques, ce sont ces débris plastiques dont la taille est inférieure à 5 mm et on parle aussi de nanoplastique quand c'est vraiment inférieur à 1 micromètre, donc quand c'est vraiment quand même très petit, on les retrouve partout dans l'environnement. On avait évoqué en 2019 des chercheurs qui considéraient que nous ingérions environ 5 grammes de microplastique par semaine. 5 grammes, c'est l'équivalent d'une carte de crédit. On ne s'en rend même pas compte. On mange du microplastique assez régulièrement. Et donc ça, on l'avait évoqué, c'était en 2019. Et il se trouve qu'il y a deux articles qui reviennent sur ce sujet-là. Premier article qui explique que pour la première fois, ces microplastiques ont été identifiés dans le sang de 22 volontaires anonymes. Les scientifiques de l'université d'Amsterdam sont à l'origine de cette découverte. Ils ont aussi réussi à les quantifier, ces débris de plastique. Selon leurs résultats qui ont donc été publiés il y a quelques semaines dans la revue Environment International, il y a environ microgrammes de microplastique qui circulent par millilitre de sang, ce qui est quand même assez énorme. Avec leur méthode de détection, les scientifiques n'ont pu que détecter les particules de plastique dont la taille est assez importante. C'est-à-dire que, enfin importante, relativement, on est quand même dans l'infiniment petit, entendons-nous bien, mais quelque part, ils n'ont pas réussi à véritablement tout identifier, tout détecter. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut en avoir plus dans le sang. Et en fait, on considère que ces microplastiques seraient capables de traverser la membrane de nos cellules. Et les scientifiques donc néerlandais ont identifié 4 types de polymères plastiques. Je vous épargne les noms assez compliqués, mais en tout cas, on a différents types qui ont été identifiés. Le destin de ces microplastiques qui voyagent dans notre sang reste en grande partie inconnu. Ils pourraient donc atteindre les organes et s'y accumuler, mais les conséquences de leur présence sont actuellement inconnues. On n'a absolument pas de recul. Les microplastiques semblent contaminer le sang humain via les muqueuses, par inhalation, par ingestion également. Alors, ces microplastiques flottent aussi dans l'air. Et ceux de petite taille peuvent être inhalés en même temps que l'on respire, c'est dire. Ils sont aussi présents dans l'eau, dans les aliments, mais aussi dans d'autres produits en contact avec notre bouche notamment. Alors il y a beaucoup de questions qui sont encore sans réponse concernant ces microplastiques. Est-ce que ils pénètrent véritablement dans nos cellules? Est-ce qu'ils sont reconnus par le système immunitaire? Il y a des questions qui vont faire donc l'objet de recherches scientifiques dans le futur, parce qu'il faut qu'on en sache un petit peu plus. Et dans la même période à peu près, il y a un autre article qui revient sur ce sujet des microplastiques. Ce sont des chercheurs de l'université de Hull, nous sommes en Royaume-Uni cette fois-ci, qui annoncent avoir trouvé des microplastiques jusqu'aux poumons. Et c'est donc une zone on les attendait vraiment pas non plus dans cet endroit-là. Les travaux ont été menés sur des tissus de poumons sains prélevés sur des patients vivants à l'occasion d'interventions chirurgicales dans le cadre de leurs soins. Donc on les a pas triturés exprès, on a profité d'une intervention chirurgicale pour effectuer ces prélèvements. Et ces prélèvements, ils ont été filtrés, analysés par une technique d'imagerie médicale. Et puis on a fait aussi des échantillons de contrôle qui ont permis de garder en vue la problématique de la contamination de l'environnement, de tests également. Alors les chercheurs ont identifié cette fois 12 types de microplastiques différents. Du polyéthylène, c'est celui qu'on retrouve notamment dans les emballages en plastique, mais également celui qu'on retrouve dans les bouteilles, dans le nylon, dans les vêtements, dans les résines, les peintures, les caoutchoucs, des pneus de voiture et ainsi de suite. Et puis, on les retrouve à des niveaux considérablement plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Mais donc, la découverte plus importante de cette étude britannique reste peut-être que le nombre le plus important de microplastiques a été retrouvé dans la partie inférieure des poumons. Des microplastiques en plus d'une taille étonnante pour une région que les chercheurs imaginaient un peu protégée par les voies respiratoires particulièrement étroites. Eh bien non, c'est un résultat qui aidera à mener de manière plus réaliste les expériences en laboratoire destinées à déterminer l'impact de ces microplastiques sur notre santé. Donc deux articles conséquents sur ce sujet des microplastiques. On en avait déjà parlé de temps en temps dans cette émission par le fait qu'on retrouvait des microplastiques un peu partout dans l'environnement. Là, ce sont deux articles qui vont un petit peu plus loin dans l'alerte, entre guillemets, dans le sens où ils expliquent que ces microplastiques, on les retrouve aussi à l'intérieur de notre corps. Et quelque part, s'il n'y a pas de reconnaissance par le système immunitaire qui pourrait quelque part essayer de se débarrasser de ces microplastiques pour pouvoir les expulser du corps humain, si ces plastiques restent à l'intérieur du corps, pénètrent dans nos cellules, on devine les dégâts conséquents qu'il peut y avoir. Donc c'est effectivement deux sujets assez inquiétants qu'il va falloir veiller par la suite. Et donc, vous l'avez compris, il y a des recherches qui sont menées sur ce domaine-là. Autre sujet, alors on va partir dans l'espace parce que c'est toujours intéressant. Moi je trouve que franchement, à chaque fois qu'on va dans l'espace, ça fait du bien. L'annonce a été faite il y a un petit peu plus d'une semaine, il y a 15 jours, c'était le 24 avril, sur le média chinois CCTV, par notamment cette annonce faite par le directeur adjoint de l'agence spatiale chinoise. Il a précisé donc du coup que une mission se ferait d'ici 2025 ou 2026, donc dans quelques années. Une mission qui est en cours de conception. L'idée, c'est de tenter de dévier un astéroïde. C'est ça la mission qui va être menée. L'astéroïde cible n'a pas encore été sélectionné. Le programme, en fait, consisterait à mettre en place un système de surveillance et à développer des modélisations d'opérations contre un géocroiseur. Et ensuite, l'agence spatiale chinoise souhaite que la mission fasse quelques observations de près de cet objet avant d'y envoyer un impacteur pour dévier sa route. Alors, cette mission se veut expérimentale. Il s'agit de vérifier la capacité d'une mission robotique à dévier la route d'un petit corps, donc d'un petit astéroïde qui se montrait quand même menaçant pour la Terre. Mais la cible sera sans doute, du coup, un petit astéroïde afin de pouvoir mieux constater les effets de l'impact sur sa trajectoire. Alors, les premières réflexions remontent à l'année dernière, quand la Chine a organisé sa première conférence de défense planétaire. Et donc, la Chine entend mettre d'ici 2025. Donc, 2025, c'est demain. Ça, il faut pas se leurrer, ça va être assez rapide. Mettre en place un dispositif capable de cataloguer, de suivre et de surveiller donc ces objets qui peuvent potentiellement menacer la Terre en passant pas très loin. Alors la Chine souhaite également mettre en place un système de réponse rapide et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette mission de déviation. Mais on est bien toujours dans un principe expérimental, donc dans un principe de démonstration et de faisabilité. Alors la Chine a déjà survolé en décembre dernier un astéroïde avec la sonde lunaire Change 2 qui était alors en extension de mission quand elle a pris des clichés qui faisaient partie de sa mission. Et donc il y a une mission de retour d'échantillons d'astéroïdes qui est également prévue. Avec un décollage d'ici 2025, la Chine est véritablement en pleine expansion dans le domaine de la conquête spatiale. On parle beaucoup de la Chine depuis quelques temps et là, la Chine fait encore une démonstration de force pour essayer donc de dévier un astéroïde ou alors de ramener des échantillons de ces astéroïdes. C'est assez intéressant et bien sûr, cette compétition spatiale nous promet quand même des choses assez passionnantes d'un point de vue technologique, bien évidemment. Je vous l'ai dit, je crois que je vous le dis toutes les semaines, cette décennie va être géniale du point de vue de l'espace. Il va se passer plein de choses. Et là, sur Graphite, il va se passer un peu de musique. Amid pillars and statues so many.
still dwell in diligence. I see the masses disperse at the sight of it. Two shutters high, the sight of it. And I am stunned by the sight of it. I stand still. And close to my world's end. She was in raw hell under my skin. She was sleeping so soundly. Sleeping so soundly. Close to my world's end. She was in broad hell under my skin. She was sleeping so soundly. Sleeping so soundly.
Whispery Sounds avec It sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h. Vous écoutez Biotine, le magazine d'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous suivent sur internet. Vous avez également la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts des émissions, donc n'hésitez pas. Vous souhaitez vous tenir informé de l'actualité, vous avez raison, donc merci de votre fidélité et de votre attention. On essaye un petit peu de survoler l'ensemble de l'actualité scientifique le plus abordable possible, bien évidemment. En plus, avec le média radio, c'est pas nécessairement toujours simple. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Par exemple, on l'a su que récemment, mais entre 2007 et 2012, le département américain de la défense a mené en toute discrétion un programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. C'est encore un terme compliqué pour dire tout simplement que le département américain de la défense a étudié de très près la question des ovnis. Les objets volants non identifiés, les scientifiques préfèrent généralement aujourd'hui qualifier de phénomènes aérospatiaux non identifiés. On n'est plus dans des objets, mais on est dans des phénomènes. Et un petit peu pour essayer de libérer toute cette notion extraterrestre. Donc on est sur des phénomènes aérospatiaux. Et c'est en 2017 que ce programme a été révélé au public. Lorsque Luis Elizondo, l'ancien directeur du programme, a publié quelques vidéos d'un appareil non identifié après avoir démissionné du Pentagone. Du coup, on en avait parlé, c'était en 2017. Il y a une demande qui avait été déposée par le tabloïd britannique The Sun pour que tous les documents rattachés au programme soient dévoilés. L'agence de l'intelligence de la défense américaine vient tout juste d'y accéder et donc elle a confié au journal 1500 documents. Alors selon The Sun, certains de ces documents sont pour le moins troublants. Il y a un courrier rédigé par le sénateur Harry Reid en 2009 qui souligne que ce programme a déjà identifié, je cite, plusieurs technologies aérospatiales hautement sensibles et non conventionnelles. Bon, ok, encore des termes compliqués pour dire qu'on a vu des choses qu'on ne comprenait pas. Des technologies qui pourraient nécessiter une protection extraordinaire, dit-il. Plus troublant encore, il y a un rapport daté de mars 2010 qui existe et qui est titré « Effet de champs aigus ou subaigus anormaux sur les tissus émains et biologiques ». Et donc, en fait, ça décrit des blessures qui sont présumées occasionnées à des observateurs humains par des systèmes aérospatiaux avancés anormaux. Et certains sont même envisagés comme des menaces aux intérêts des États-Unis. Et donc ce rapport serait construit autour de 42 cas accompagnés de dossiers médicaux et de 300 cas non étudiés d'humains qui ont été blessés suite à des rencontres présumées avec, je cite, des véhicules anormaux. Et puis il y aurait d'autres cas qui existeraient, je vais y arriver, excusez-moi finalement, mais qui resteraient encore classifiés. En clair, ça veut dire qu'on ne sait pas tout. On ne nous dit pas tout. Et du coup, il y a une sélection des cas qui ont été dévoilés. On s'en doute que pour l'instant, on ne saura pas tout. Mais en tout cas, il y a des ovnis quelque part qui pourraient être la cause de ces blessures. Au nombre des blessures enregistrées, il y a des brûlures, il y a des lésions cérébrales, des lésions nerveuses, des palpitations cardiaques, des maux de tête, souvent reliés à, je cite, des rayonnements électromagnétiques et au système de propulsion des engins. Alors, selon donc The Sun, les documents tenu jusqu'ici secret de ce programme, inclut des études sur des technologies avancées de type cape d'invisibilité, on est dans Harry Potter, ou alors des robots contrôlés par l'esprit. Voilà, mais ça devient quand même totalement fascinant. Et ces documents comprennent aussi des études sur la communication avec des civilisations extraterrestres ou des plans de colonisation. Le rapport propose aussi une liste des effets biologiques présumés des observations d'ovnis qui ont eu lieu sur à peu près un siècle, c'était entre 1873 et 1994, une liste compilée qui raconte une grossesse non expliquée, 5 rencontres sexuelles, un enlèvement apparent, une paralysie et des expériences de télépathie, de téléportation et de lévitation. Tout ça dans ce rapport. La conclusion de ce rapport assez étonnant, c'est la conclusion est la suivante. Je cite, « Il existe des preuves pour étayer l'hypothèse selon laquelle certains systèmes avancés sont déjà déployés aux États-Unis et restent opaques à notre compréhension. » Ok, alors, précision de Futura Science qui nous avait fourni cet article. The Sun, il est quand même ce tabloïd assez célèbre pour ses penchants sensationnalistes, bien évidemment. Il n'a pas encore partagé le contenu de ses documents qui a été fourni donc par cette administration américaine et que l'on ignore tout du processus de vérification que ce programme a utilisé pour enquêter sur ces cas présumés. Donc, il y a quand même encore un flou et quelque part une... Enfin, voilà, quand il y a... On n'a pas tous les éléments qui vont pouvoir corroborer tous ces cas parce qu'on ne sait pas précisément dans quel contexte cela s'est fait. Mais la grande prudence reste pour l'heure de mise quant à la solidité de ces révélations. Bien évidemment, parce que l'une des problématiques dans ce cas, c'est que ça soit un tabloïd anglais qui reçoive ce rapport. Enfin, je veux dire, c'est assez surprenant d'ailleurs que ce tabloïd ait pu avoir accès au rapport et qu'il n'a pas été encore publié. Donc voilà, prenons avec beaucoup de recul ce que l'on vient d'évoquer. Mais bon, c'est toujours intéressant de cette partie. On n'évoque pas souvent cette partie, on va dire... pas nécessairement extraterrestre, mais on va dire un peu extraordinaire de certains phénomènes qui peuvent survenir. Mais voilà, ça reste des sujets sur lesquels il faut avoir beaucoup de recul, beaucoup de lucidité également. Et on suivra ça, bien sûr, quand on aura un petit peu plus de précision, bien évidemment. Autre sujet, je vous le dis aussi très souvent dans cette émission, l'un des défis qu'il va falloir relever, c'est le défi de l'énergie et notamment la mise en place d'énergies renouvelables. Les panneaux solaires constituent l'une des principales sources, on le sait, d'énergie renouvelable. Mais leur plus grand défaut, bien sûr, c'est de ne pas produire d'électricité quand il n'y a pas de soleil, et donc notamment la nuit. Le plus souvent, cette production, elle est mélangée à d'autres sources qui compensent cette faiblesse. Mais ce n'est pas toujours possible pour des installations qui ne sont pas connectées au réseau électrique. Et donc, ces lieux un peu isolés doivent alors s'appuyer sur des batteries qui sont chargées en journée. Ça coûte cher et ça a une durée de vie limitée. Eh bien, des chercheurs de l'université de Stanford ont souhaité résoudre ce problème en créant des panneaux solaires qui produisent de l'électricité la nuit. Donc c'est des panneaux solaires qui produisent l'électricité quand il n'y a pas de soleil. Des panneaux lunaires quelque part, c'est assez intéressant. Dans un article publié dans la revue Applied Physics Letters, eh bien, ils décrivent leur prototype constitué d'un panneau solaire standard auquel ils ont ajouté un générateur thermoélectrique. Ça veut dire que pendant une nuit sans nuages, le panneau solaire il va évacuer sa chaleur directement vers l'espace et un phénomène qui le rend légèrement plus froid que l'air ambiant. Et donc, ce fameux générateur thermoélectrique utilise cette différence de température pour produire du courant. Et cette technique, elle ne génère que 50 milliwatts de courant par mètre carré. C'est une quantité qui peut paraître un peu dérisoire, mais si on prend le cas d'une installation classique sur une maison, et donc une installation par exemple de 20 mètres carrés, ce qui peut être assez possible quand on a ça sur un toit, eh bien ça produirait déjà 1 watt la nuit, ce qui est quand même assez intéressant. Les chercheurs pensent pouvoir doubler le rendement avec quelques modifications. Ils estiment, les chercheurs, que le rendement théorique maximal pourrait atteindre 1 ou 2 watts par mètre carré, ce qui est quand même assez intéressant. Leur invention permettrait à des installations donc isolées de se passer de ces fameuses batteries et de produire suffisamment d'énergie pour charger un smartphone ou alimenter un éclairage LED, par exemple, un éclairage avec des ampoules basse consommation. Mais donc voilà, le premier panneau solaire qui peut produire l'électricité la nuit a été créé. Et donc du coup, on est quand même dans un stade pour l'instant prototypal, mais on devine les conséquences qu'on peut obtenir avec le déploiement d'une telle technologie. Effectivement, c'est assez intéressant, bien évidemment, à faire à suivre, parce que, comme je vous l'ai dit, l'énergie, c'est véritablement un domaine qu'il va falloir regarder de très très près. On écoute Elado Negro sur l'antenne de Graphite.
Thank you.
Le Talove, c'était la donnée grosse et douce sur l'antenne de Graphite en ce samedi midi. Bon appétit si vous êtes à table. Aider les scientifiques à recenser les hérissons d'Europe. C'est un appel qui a été lancé. Il est emblématique des jardins. Le hérisson mérite quand même d'être mieux connu et surtout protégé. Il vit au fond du jardin. Alors sachez comment l'accueillir sans perturber son rythme de vie. Partagez votre expérience avec France Nature Environnement pour voir leur évolution dans notre société qui change et surtout savoir comment l'aider à survivre. Alors c'est une espèce indigène en France, hein, le hérisson d'Europe ou le hérisson commun est très chouchouté par les jardiniers parce qu'il est très utile, hein, il est insectivore, il est nocturne, il adore manger les limaces, les lombriques, les scarabées, les chenilles, les insectes qui viennent dévaster les légumes dans le potager ou alors dévaster également les jeunes fleurs dans les massifs. Alors quelques idées pour accueillir le hérisson dans votre jardin. Eh bien, lui construire un nid douillet, c'est un abri dans le fond du jardin, car il n'apprécie pas être dérangé comme tout le monde. Des branchages, des mousses, des feuilles qui vont lui servir à créer son refuge. Ne pas utiliser de produits de traitement nocifs pour les végétaux parce que ça pourrait nuire aux hérissons et les empoisonner. Et enfin, lui offrir en plus du gîte une coupelle d'eau à disposition parce qu'il ne faut pas qu'il se déshydrate, bien évidemment. Alors, il est recouvert, on le sait, de poils piquants pour repousser les prédateurs. Il utilise son petit museau qui est pointu pour repérer ses proies et les manger. Et dès qu'il y a danger, il se positionne en boule, bien évidemment, en montrant tous ses piquants. Le hérisson adulte possède quelques ennemis naturels. Comme les renards, les blaireaux, les bébés hérissons peuvent être mangés par ces rongeurs. Bon, la femelle, elle met bas de 2 à 7 bébés une à deux fois par an. Et après les avoir allaités, elle déplace les petits vers un nid jusqu'à ce que la portée vole de ses propres ailes, entre guillemets. 6 semaines après, dès l'arrivée de l'hiver, les hérissons rentrent en période d'hibernation. Donc n'essayez pas de domestiquer un hérisson, parce que finalement, on sait très peu de choses sur l'évolution du hérisson dans la nature. L'effectif de population en France, son comportement face aux effets du dérèglement climatique, son attitude face aux activités humaines, il y a beaucoup de questions sur lui et on n'a pas beaucoup de réponses. Et bien l'idée de France Nature Environnement, c'est de lancer une vaste opération de recensement participatif afin de mieux connaître, d'étudier, de protéger les hérissons. Et donc, c'est sur l'ensemble du territoire national depuis l'année dernière que le hérisson est recensé. Donc, si vous êtes intéressé en tant que particulier, vous pouvez envoyer vos observations pour alimenter la base de données collectée donc, par France Nature Environnement afin de mieux connaître l'univers du hérisson. Donc, n'hésitez pas à le prendre en photo. Ou en vidéo, de déposer des informations et vos observations sur le site de France Nature Environnement. Tous les signalements sont précieux pour les scientifiques. Ces données sont ensuite traitées pour voir l'impact de l'activité humaine sur les hérissons. Et donc là, il y a une étude grandeur nature qui est menée sur les hérissons. Bah, si vous pouvez y participer, tant mieux pour vous. Ça serait très bien. Moi, habitant Paris, je n'ai pas encore vu de hérissons, mais bon, ça doit peut-être exister dans certains parcs, peut-être à voir. Mais en tout cas, en région, bien évidemment, je ne doute pas que vous en trouvez au fond de votre jardin. Donc, participez à cette grande campagne de mobilisation et d'information pour qu'on puisse en savoir plus. Autre chose, la surconsommation de sel augmente le risque d'hypertension artérielle, le risque d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral, on le sait. Alors le problème est qu'il s'agit, le sel, d'un exhausteur de goût. Et donc ceux qui doivent réduire la quantité de sodium dans leur alimentation, et ben, ils peuvent trouver les plats un peu fades et ils ont du mal à résister à la salière, bien évidemment. Quand on est habitué à manger salé pardon, et qu'il faut se passer de sel, c'est assez compliqué. Eh bien, il y a le professeur Omei Miyashita de l'université Meiji au Japon qui a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Kirin. Alors Kirin, on connaît cette entreprise parce qu'il y a une bière qui s'appelle Kirin. Et donc, ils ont travaillé ensemble pour essayer de trouver une solution. Et les recherches de ce professeur se concentrent sur le goût. Alors, il avait déjà fait la sensation il y a quelques temps avec un écran léchable et une sucette capable de synthétiser n'importe quel goût. Alors, je vais parler, je crois, dans cette émission il y a quelques années. Eh bien, cette fois, il a présenté une paire de baguettes qui augmente le goût salé. C'est quand même assez fascinant. Une des baguettes est reliée à un petit boîtier porté au poignet qui délivre une stimulation électrique de faible intensité. Et c'est cette stimulation qui va modifier le goût qui est perçu par la langue. Selon le chercheur, en agissant sur les ions de chlorure de sodium, eh bien, les aliments sont perçus comme étant plus salés, tandis qu'en agissant sur les ions de glutamate de sodium, les aliments semblent plus sucrés. Donc les chercheurs ont testé leur méthode avec des volontaires qui ont goûté deux préparations culinaires avec différentes doses de sel. Donc il y en avait un qui avait une dose de sel et l'autre qui en avait un peu moins. Et l'ensemble des participants ont jugé que le goût salé de la deuxième version, qui était donc dégustée avec des baguettes connectées, était identique au goût du premier sans les baguettes. En clair, vous avez deux préparations, une qui est salée normale et une qui est très peu salée. Quand vous mangez avec ces baguettes l'aliment qui est très peu salé, vous avez la même sensation de sel dans la bouche. Et donc du coup, vous avez le goût du sel sans avoir le fait d'en ingérer. C'est ça qui est assez intéressant. Ces chercheurs estiment donc que ce dispositif augmente le goût salé de 50%. Ils ont obtenu des résultats similaires avec une soupe également, ayant une teneur réduite en sel. Alors, ce chercheur, donc Omei Miyashita, espère commercialiser ses baguettes dès l'année prochaine et pourrait également les décliner sous la forme d'autres ustensiles, des fourchettes, des cuillères, allez savoir. C'est assez intéressant quelque part parce que du coup, ça permet aux personnes qui sont en régime sans sel de ou pauvre en sel, d'avoir quand même la sensation de manger quelque chose avec du goût sans avoir malheureusement le risque des différentes pathologies qui peuvent en découler. C'est ça qui est assez intéressant. Allez, je bafouille trop aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis désolé. On va écouter un petit peu de musique et puis on terminera cette émission avec quelques informations scientifiques, bien évidemment.
Listen. I'm on the front line, fighting for what's mine. Wasting no time, I can see it shine through the dust. Beaming into my mind, I fully trust that I'm on the right side is a must. Freedom for all, peace and love. For the big, for the small, we're on the same team. Can you hear the call? United we stand. If you're Muslim, you're a terrorist, a violent thug. If you're black, and if you're white, they say you're mentally ill. This was fucking real, when I can't believe folks buy into that and let the media get away with that. For them to keep doing it over again. People now enemies that used to be friends. Let's not pretend that it doesn't affect us. Start to panic, seeing a bearded man on a bus. That's what they done, you don't even know it. Telltale signs, you're starting to show it. Desensitized from the news of war. It doesn't seem to bother you anymore. Too busy trying to maintain the bills. Who cares who kills or how much blood spills? Yo, I'm on the front line, fighting for what's mine. Wasting no time, I can see it shining through the dust. Beaming into my mind, I fully trust that I'm on the right side is a must. Freedom for all, peace and love. For the big, for the small, we're on the same team. Can you hear the call? United we stand. You got affected directly. Your son just passed while serving in the army. Now you've got a million questions in your head. All of a sudden you're not wondering about the dead. Thinking about why this hate was spread. It starts to make sense why people can't forget. Scar of bloodshed, an arm and a leg. One of the many Operation Cast Lead. Now you see people acting the way you used to. And if you say something, the hate is directed to you. Labels, stereotypes and everything that comes with it. You're either with it or against it. Disagreement means you're afraid, you're not alone. The masses can feel it in the bones. Still got a chance to make it right. What you gotta do was refuse to fight. For them big corporations full of exploitation. While society's begging, they be shelling and the bellies be swelling. Whose story they be telling? Wake up, we're getting fed up again. Yeah. I'm on the front line, fighting for what's mine. Wasting no time, I can see it shining through the dust. Beaming into my mind, I fully trust that I'm on the right side, it's a must. Freedom for all, peace and love. For the big, for the small, we're on the same team. Can you hear the call? United we stand. Thank you.
Frontline, c'était Agenda Foundation sur l'antenne de Graphite. Deux dernières informations avant de nous quitter. Alors, on parlait de ces baguettes qui nous permettaient de manger salé, mais on ne sait pas trop précisément ce qu'il y a dans nos assiettes. L'ONG Génération Future, qui scrute régulièrement la présence de pesticides dans les fruits et légumes destinés à la consommation, eh bien cette ONG déplore l'existence de résidus dans près de 2/3 des fruits, des légumes, des céréales qui ne sont pas bio. Une présence jusque-là sous-estimée selon l'ONG, qui base son rapport sur les données fournies par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et a salué l'effort fourni par l'institution pour avancer dans la transparence en fournissant pour l'année 2020 des résultats sur des échantillons désormais clairement distingués entre les végétaux bio et ceux issus de l'agriculture utilisant la chimie de synthèse. Donc la Direction Générale de la Concurrence publie par ailleurs des résultats non seulement sur les résidus supérieurs à la limite de quantification, c'est-à-dire dont les laboratoires peuvent donner la concentration, mais aussi ceux supérieurs à la limite de détection mais non quantifiés. Donc l'ONG explique, cela permet maintenant de voir plus complètement la présence des résidus de pesticides dans les aliments d'origine végétale qui étaient jusque-là sous-estimés. Alors selon l'analyse de l'ONG qui se base sur ces données, près de la moitié de l'ensemble des échantillons bio et non bio révèlent des résidus de pesticides supérieurs à la limite de quantification. Et sur c'est sur ce seul chiffre que l'État communiquait ordinairement. Auparavant, le porte-parole de l'association s'appelle François Veillerette. Il s'est étonné lors d'un point de presse récemment que depuis 2 ans, il n'y a pas eu de communication gouvernementale sur ces chiffres. Alors le pourcentage, il dépasse 50%, il va jusqu'à 54% en ne considérant que les produits non bio où sont détectés des résidus supérieurs à la limite de quantification et 63% sur les résidus dans les produits non bio supérieurs à la limite de détection. Alors la nouvelle méthode de travail ne permet pas pour l'instant de comparer ces chiffres dans le temps. Le rapport n'est pas sur l'évaluation du risque, un processus plutôt complexe qui nécessiterait de connaître l'exposition des consommateurs, mais les gens veulent manger des aliments qui ne contiennent pas de produits chimiques dangereux, explique l'ONG. Bien sûr, on est tous d'accord. Conséquence donc de cette enquête, l'ONG Génération Future réclame, je cite, un plan d'urgence de réduction de l'usage des pesticides et un soutien accru à l'agriculture biologique. Et donc cette ONG déplore au passage le report par la Commission européenne de la publication du nouveau règlement sur l'utilisation durable des pesticides sous la pression, d'après l'ONG, des syndicats agricoles comme la FNSEA et la position d'État, notamment comme celui de la France. Donc voilà, on est sur un sujet politique cette fois-ci, mais les 2/3 des fruits et légumes contiennent des pesticides d'après les rapports que l'on a et qui ont été relayés par cette ONG, bien évidemment. Dernière information, c'est le Haut Conseil de la Santé publique qui a publié il y a quelques semaines, alors je l'évoque que maintenant, j'en suis désolé, mais le Haut Conseil de la Santé publique a publié un avis portant sur les bénéfices-risques de la cigarette électronique. Alors, cette cigarette, quand on fait la synthèse de ce document, les connaissances fondées sur les preuves non insuffisantes pour proposer ces cigarettes électroniques comme aide au sevrage tabagique dans la prise en charge des fumeurs par les professionnels de santé, eh bien du coup on se rend compte que ce ne serait pas efficace contre le sevrage tabagique. Alors c'est un peu étonnant quelque part parce qu'on avait admis de façon un peu commune que la cigarette électronique représente une aide importante dans le sevrage tabagique. Pourtant, cette hypothèse ne s'appuie pas sur des données scientifiques. En effet, il y a peu d'essais sur le sujet et leur qualité méthodologique n'est pas nécessairement satisfaisante. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est que on n'a pas le recul encore nécessairement sur l'efficacité et les impacts de l'utilisation de la cigarette électronique. Et donc, du coup, on peut difficilement donner un avis éclairé sur ces cigarettes. Le peu de données disponibles montrent que dans le cadre du sevrage tabagique, l'utilisation de cigarettes électroniques contenant de la nicotine n'est supérieure ni à l'utilisation de cigarettes électroniques qui n'en contient pas, ni au traitement substitutif de la nicotine, par exemple les patchs. Le rapport note cependant qu'une approche pragmatique doit tenir compte du fait que certains fumeurs vont préférer utiliser une cigarette électronique plutôt que de recourir au système de santé. Alors, On pourrait imaginer que la cigarette électronique soit utilisée à la place du tabac et qu'ainsi, elle favoriserait la réduction des risques du tabac. Et il semblerait que ce ne soit pas le cas. Une personne sur deux en tentative de sevrage tabagique avec une cigarette électronique contenant de la nicotine continue à fumer des cigarettes, ce qui additionne les risques bien évidemment. Et d'après les données disponibles, la cigarette électronique constituerait une sorte de passerelle vers la consommation de cigarettes chez les jeunes, alors qu'on aurait pu espérer un espèce d'effet de diversion. Et donc chez les adolescents, elle jouerait même un rôle initiateur. Cependant, les études en question comportent des biais et il est difficile de conclure avec certitude sur ce point. Donc il va falloir quand même refaire des études un peu plus poussée, un petit peu plus rigoureuse, on va dire. En conclusion, le Haut Conseil de la Santé publique demande aux professionnels de santé qui accompagnent des patients dans leur sevrage tabagique de privilégier les traitements ayant prouvé leur efficacité, ce qui n'est pas le cas de la cigarette électronique. Néanmoins, le Haut Conseil nuance, l'absence des connaissances fondées sur les preuves n'exclut pas que le rapport bénéfice-risque de ces produits utilisés hors système de santé puisse représenter une aide pour certains consommateurs et contribuer ainsi à améliorer leur santé. Donc voilà, il y a bien une interrogation sur ces cigarettes électroniques qui ne seraient pas efficaces contre le sevrage tabagique, alors qu'au départ, c'était un petit peu, on va dire, un argument marketing, bien évidemment. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine, l'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h et le mardi entre 10h et 11h. Je vous souhaite une bonne journée à l'antenne. Enfin, vous restez fidèles, bien sûr, à toutes les émissions sur l'antenne de Graphite. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.